La bête de l'Apocalypse, mythe, métaphore ou réalité à venir, par John H. Ogui. Comment les développements politico-religieux mondiaux vous affectent-ils, vous et votre famille? Un dictateur mondial apparaîtra-t-il bientôt? Plus précisément, qui est la bête ou qu'est-elle? Et recevrez-vous sa marque infâme? Lisez ce qui suit pour avoir les réponses. Table des matières. Page 3. Introduction. Page 6. Chapitre 1. Le livre de Daniel. La clé d'un ancien mystère. Page 13. Chapitre 2. La bête de l'Apocalypse révélée. Page 19. Chapitre 3. Rome, ancienne et future maître du monde. Page 31. Chapitre 4. La mystérieuse marque de la bête. Page 42, chapitre 5, le récit de deux cités, celle qui est passée et celle à venir. Édition 1.0, février 2006. Copyright 2000, Living Church of God. Tout droit réservé. The Beast of Revelation, traduit de l'anglais sous la surveillance de Dibar, appartient. Cette brochure n'est pas à vendre, elle est envoyée gratuitement sur simple demande à titre de service éducatif rendu au public. Introduction. Aujourd'hui, les journaux nous relatent l'état des affaires mondiales, qui aurait été absolument impensable pour un observateur en 1945 à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Puis, l'axe Rome-Berlin a éclaté et les forces américaines et britanniques s'élevèrent au pinacle de la victoire. De nos jours, les Britanniques ont été séparés de leur empire et l'Amérique est moralement et culturellement en banqueroute. L'Europe est en train de s'unifier activement sous l'égide d'une puissante Union européenne, dominée par l'Allemagne. Dans les décennies qui suivirent la Deuxième Guerre mondiale, l'Amérique et la Grande-Bretagne investirent des milliards de dollars dans des opérations d'espionnage et de contre-espionnage. Cependant, les événements géopolitiques les plus stupéfiants de l'époque d'après-guerre aboutissent à l'effondrement du rideau de fer et à l'émergence d'une puissante Allemagne réunifiée. Ont complètement pris par surprise ces gouvernements. Les rapides événements survenus en Europe orientale et centrale en 1989 ne surprirent pas tout le monde. Un éditorialiste de Free Press, Andersonville, Tennessee, déclara le 7 décembre 1989. Je cite. Comme beaucoup d'Américains, j'ai suivi le déroulement de la situation politique en Allemagne de l'Est avec intérêt, alors que beaucoup de gens exprimèrent leur surprise quant aux récents événements et aux cris des Allemands de l'Est pour une réunification de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, j'ai reconnu que je n'avais pas été aussi surpris que cela par ces événements. La raison pour laquelle je n'avais pas été particulièrement surpris était que, depuis plusieurs années, je lisais occasionnellement les publications de feu Herbert W. Armstrong, qui avait prédit que le mur de Berlin ne tiendrait que quelque temps, et que les deux États allemands allaient, une fois encore, se réunifier en une nation puissante. Sauf mention contraire, c'est nous qui traduisons tout au long de cette brochure. Déjà dans la revue Plain Truth, en avril 1952, M. Armstrong avait écrit que l'Allemagne de l'Est allait retourner vers l'Allemagne de l'Ouest, et que la Russie serait obligée de renoncer à son contrôle sur la Hongrie, la Tchécoslovaquie et les parties territoriales de l'Autriche. Page 16. En 1956, suite à l'invasion de la Hongrie par la Russie, quand le rideau de fer semblait inexorablement faire dépérir les nations de l'Europe orientale, M. Armstrong écrivit, je cite, « La voie est en train d'être préparée pour une troisième force colossale dans le monde politique. » Une fédération de nations européennes encore plus puissante que la Russie ou les États-Unis. Nous montrons des années à l'avance ce qui va arriver à l'infortuné empire russe. En Europe orientale. Plain Truth, décembre 1956, page 3. Comment pouvait-il savoir cela? Dans cette brochure, vous saurez pourquoi. Depuis l'époque de la tour de Babel, les efforts de l'humanité n'ont jamais été aussi entrelacés et interconnectés. Aujourd'hui, nous parlons communément de la manière dont le monde a été transformé en un village mondial. Les avions à réaction, les télécommunications instantanées et le monde de l'économie intégrée ont changé notre monde. De la finance à l'industrie, ce sont maintenant des sociétés et des entreprises multinationales qui dominent virtuellement tous ces secteurs. Où qu'ils se trouvent, les gens sont reliés par Internet et par les transmissions télévisées satellitaires. Mais paradoxalement, les nations sont de plus en plus divisées et fragmentées par d'anciennes ethnies et des courants religieux. Où tout cela va-t-il nous mener? Alors que le monde économique devient interconnecté comme jamais auparavant, des rivalités et des haines entre anciennes ethnies refont surface. Les dirigeants financiers et gouvernementaux citent continuellement ces tensions croissantes pour illustrer le besoin d'une alternative viable à la situation présente, un système instable d'États et de nations indépendantes. Il est évident que si les émotions humaines n'arrivent pas à être canalisées différemment, elles briseront l'intégralité de la structure économique mondiale. L'humanité se cherche une identité surmontant les divisions et les rivalités actuelles. Les mondialistes souhaitent remplacer les États et les nations indépendantes. Pourtant, ils sont incapables de concevoir une solution qui revendiquerait la loyauté et impliquerait le patriotisme de l'homme moyen. Les gens ne peuvent pas développer une loyauté émotionnelle intense envers des bureaucrates anonymes ou des objectifs de profit maximaux pour les sociétés. Où cette crise naissante, la fragmentation de l'époque de la mondialisation, va-t-elle réellement nous mener? Il y a seulement une source où vous pourrez trouver la réponse. Le Dieu suprême est le seul qui proclama la fin, dès le commencement, Ésaïe 40 au verset 10. Et il écrivit cela pour nous, dans son livre, la Bible. Les contours les plus complets des futurs événements se trouvent dans le dernier et le plus mystérieux livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Nous y lisons la description d'une bête, mystérieuse, avec des têtes et des cornes, apportant une terrible marque. Cette créature est décrite comme dominant le monde entier, et exerçant une puissance et un contrôle impressionnants. Mais que signifie tout cela? Pouvez-vous véritablement comprendre cela? Bien qu'une grande partie de l'Apocalypse soit en langage symbolique, la Bible interprète en fait elle-même ses propres symboles. Lisez ce qui suit pour comprendre le message limpide des prophéties de la Bible concernant la bête de l'Apocalypse. Ces paroles prophétiques auront beaucoup plus de conséquences que vous puissiez l'imaginer sur votre vie temporelle et sur votre avenir. Chapitre 1, le livre de Daniel, la clé d'un ancien mystère. Tous les yeux étaient tournés vers un homme âgé, qui marchait droit à travers une salle de banquet puissamment éclairée et somptueusement décorée. Les rires provoqués par le vin et les plaisanteries, qui emplissaient la salle depuis une heure seulement, s'étaient brutalement changés en un silence bizarre, suivi par des murmures étouffés à la vue d'une scène à glacer le sang. À l'apogée de la fête, une main était apparue, et, se déplaçant dans l'air, avait écrit sur le mur un message en grandes lettres. L'occasion était un grand banquet donné par le roi babylonien Belshazzar pour célébrer l'invincibilité de Babylone. Babylone, qui avait été assiégée par les troupes de Cyrus le Grand de Perse, considérait que ses murailles étaient imprenables. Aussi, ce soir de nouvelle lune du 7e mois, en l'an 539 avant Jésus-Christ, la puissante élite de Babylone faisait la fête et portait des toasts. Belshazzar avait même insisté pour que la vaisselle sacrée, pillée dans le temple de Jérusalem par son grand-père quelques décennies plus tôt, soit utilisée. Il voulait utiliser les timbales comme des verres pour boire. Puis, la main écrivant sur le mur apparut, et la fête s'arrêta instantanément. Le message inscrit sur le mur était « Mini, mini, tekel, ulfarsen ». Ces mots étaient des termes d'unité de poids commun en chaldéen, mais leur signification était complètement incompréhensible pour ceux qui les voyaient. L'homme âgé, appelé par le roi, s'appelait Daniel. Il avait été conduit à Babylone comme un jeune homme juif, captif, et il avait occupé de grandes fonctions auprès du grand-père de Belshazzar. Daniel continua en expliquant au roi que le Dieu des cieux avait compté son royaume et que cela arrivait à la fin. Le roi avait été pesé sur la balance et il avait été trouvé léger. Cette même nuit, son royaume fut livré entre les mains des assiégeants mèdes et perses. En quelques heures, l'armée perse envahit totalement la ville en passant au-dessous des gigantesques murailles de la ville. La rivière qui passa sous les murailles de la ville avait été détournée par un canal quelques heures auparavant. À l'aube, dès qu'il fit noir, les troupes perses marchèrent sur le lit de la rivière asséchée et ouvrirent l'imposante porte de la cité de l'intérieur. avant le lever du soleil, ils avaient conquis Babylone et exécuté le roi Belshazzar avec une épée. Confronté aux événements de la veille, l'esprit de Daniel fit un bond dans le passé, face à une scène qui avait eu lieu quelques 65 ans plus tôt. Bien qu'il fût un jeune homme, encore à l'âge de l'adolescence, il avait été en présence du gouverneur du plus puissant pays sur terre. Sa propre vie, de même que la vie de ses proches amis, ne tenait chaque jour qu'à un fil. Ce qui avait permis à Daniel de conserver sa vie devant le roi Nebuchadnezzar, le grand-père de Belshazzar, était d'avoir interprété un songe troublant que le roi avait eu quelques jours plus tôt. Daniel avait courageusement annoncé au gouvernement sceptique et agité qu'il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets. Puis il présenta l'interprétation inspirée de Dieu de l'étrange songe du roi. Le livre de Daniel plante le décor. En l'an 604 avant Jésus-Christ, l'armée chaldéenne sous le roi Nebuchadnezzar balaya le territoire s'étendant depuis Carchemish jusqu'à la vallée de Jezreel et s'empara de la ville de Jérusalem, réduisant Juda à l'état d'esclavage. Quelques-uns des enfants de familles juives éminentes furent emmenés captifs à Babylone. Pendant les décennies qui suivirent, un des captifs, Daniel, fut amené à occuper de grandes fonctions de confiance à Babylone. Le Dieu d'Israël, qu'il continua à servir fidèlement, donna à Daniel beaucoup de visions, d'interprétations de visions, qui sont compilées dans le livre de Daniel. Regardons prudemment les grandes lignes prophétiques des événements mondiaux que Dieu inspira à Daniel. La Bible s'interprète véritablement d'elle-même et le livre de Daniel est un pivot dans la compréhension du livre de l'Apocalypse et d'autres prophéties des temps de la fin. Daniel 2 au verset 1. Décrit le songe troublant du roi Nebuchadnezzar, lequel restait dissimulé aux magiciens et aux astrologues du roi. Ils furent incapables de lui raconter son curieux songe. Finalement, Daniel vint devant le roi et lui expliqua qu'il a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets et qu'il avait révélé à Daniel non seulement le songe, mais aussi son interprétation. Verset 28. Puis Daniel expliqua au roi que dans son songe, il avait vu une grande statue s'élevant au-dessus des plinthes de Chinéa. Cette immense statue avait la tête en or, la poitrine et les épaules ou les bras en argent, le ventre et les cuisses en airain et les jambes en fer. Les jambes de fer se terminaient par des pieds composés en partie de fer et en partie d'argile. Versets 31 à 33. Dans son songe, Nebuchadnezzar avait vu une grosse pierre d'origine surnaturelle se détachant sans le secours d'aucune main, tomber du ciel et briser les pieds de la statue, au point que toute la statue fut mise en pièces et emportée par le vent. La pierre devint une montagne qui remplit la terre entière. Versets 34 et 35. Que signifie cela? Souvenez-vous que la Bible s'interprète elle-même. Daniel fut inspiré à dire à Nebuchadnezzar dans Daniel 2 au verset 38, « C'est toi qui es la tête d'or. » Il dit aussi au roi dans Daniel 2 au verset 39 et 40 que trois royaumes s'élèveront tour à tour après lui. Daniel fut inspiré à écrire pour nous que quatre grands royaumes ou empires se faisant suite domineront l'histoire, après quoi le Dieu des cieux installera son royaume éternel au temps des 10 rois, qui sont représentés par les orteils au bout des jambes de fer du quatrième royaume. Versets 41 jusqu'à 44. Daniel 2 au verset 28 accentue le fait que le Dieu vivant que nous servons révèle les secrets. Le songe du roi s'étend sur une période de temps allant de l'époque de l'ancien roi Nebuchadnezzar jusqu'aux derniers jours de ce monde, culminant avec le retour de Jésus-Christ et l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre. Verset 44. Les événements prophétisés par Daniel se sont-ils déroulés comme il l'avait prédit? La réponse est affirmative, comme nous allons le voir. Dans Daniel 5, nous lisons les événements se rapportant à la chute de Babylone, prise par les armées du roi Cyrus le Grand. L'empire des Mèdes et des Perses était le second royaume qui devait s'élever après Babylone. L'histoire nous dit que le règne de ce vaste empire médo-persan établi par le roi Cyrus, se poursuivit pendant plus de 200 ans. Puis, à partir de l'an 333 avant Jésus-Christ, les forces armées grecques d'Alexandre le Grand franchirent l'Hesponte, depuis l'Europe vers l'Asie. 2 ans plus tard, en l'an 331 avant Jésus-Christ, à la bataille du Granic, l'Empire perse s'effondrait et le troisième royaume gouvernant le monde apparut. Ce fut l'Empire gréco-macédonien sous Alexandre le Grand. Les empires hellénistiques qui succédèrent à Alexandre dominèrent le Moyen-Orient pendant environ 300 ans, jusqu'à ce qu'ils soient engloutis un à un par le quatrième grand empire dominant le monde, le royaume de fer. Il fut prophétisé que ce quatrième royaume, clairement identifié dans l'histoire comme l'Empire romain, était destiné à se poursuivre comme les deux jambes jusqu'au temps de la fin. À ces temps de la fin, les 10 orteils, ou rois, Daniel 2, au verset 44, constitueraient l'incarnation finale de ce système qui tire ses origines de l'ancienne Babylone. Si nous laissons la Bible s'interpréter elle-même, cette progression de quatre royaumes dominant le monde est limpide. La bête de Daniel 7. Dans Daniel 7, au verset 1 à 3, nous lisons que des décennies après avoir interprété le songe du roi Nebuchadnezzar, Daniel lui-même eut un songe inhabituel, dans lequel il se tenait debout, les yeux fixés sur une sombre masse nuageuse, tourbillonnante, et sur une mer déchaînée. Du milieu de cette mer houleuse, il vit quatre grandes bêtes se lever, une à une, et aller sur le rivage. La première était comme un lion, la seconde comme un ours, la troisième comme un léopard à quatre têtes. La quatrième bête a été décrite comme une créature terrifiante avec de grandes dents de fer. Verset 4 au verset 7. Sur la tête de cette quatrième bête s'élevaient 10 cornes. La fin de la vision de Daniel fait découvrir un temps où les saints du Très-Haut recevront le royaume. Ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Daniel 7 au verset 18. Souvenez-vous, la vision dans Daniel 2 s'achevait aussi par l'établissement d'un royaume aux cieux. Devons-nous laisser divaguer notre imagination en tentant de discerner l'identité de ces créatures ou devons-nous laisser la Bible s'interpréter elle-même? Selon le verset 17, ces quatre créatures qui se lèvent successivement, versets 3 à 7, symbolisent quatre rois ou royaumes. D'après le verset 23, la quatrième bête représente le quatrième royaume qui existera sur la terre. Nous avons déjà vu, dans Daniel 2, une succession de quatre royaumes. Les scénarios relatés dans Daniel 2 et Daniel 7 dénombrent quatre grands empires dominant le monde, qui s'érigent successivement. Chaque scénario s'achève avec l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Il est évident que ces deux visions relatent la même série d'événements, mais avec des détails différents. Lorsque nous comparons les visions de Daniel 2 et Daniel 7, nous voyons que le premier royaume dans Daniel 2, la tête d'or, est équivalent du lion, le roi des animaux dans Daniel 7. Le second royaume, celui d'argent dans Daniel 2, est comparé à un ours dans Daniel 7. Le troisième royaume, celui d'airain dans Daniel 2, est mis en parallèle avec le léopard à quatre têtes dans Daniel 7. Pourquoi quatre têtes? L'histoire nous apprend qu'après la mort d'Alexandre, son empire fut divisé entre quatre de ses généraux. Cette quadridivision fut prophétisée dans Daniel 8 au verset 8. Les quatre royaumes étaient de culture et de langue grecque. Il fut un prolongement divisé de l'empire qui avait été unifié sous Alexandre pendant presque une décennie. De la même manière que la grandeur et la puissance pesante de la Perse furent symbolisées par un ours, les armées grecques d'Alexandre, rapides comme l'éclair, furent décrites par la métaphore du léopard. Daniel 8 expose plus de détails de l'interaction des deuxième et troisième royaumes, la Perse et la Grèce. Daniel 8, au verset 3 et 4, décrit un bélier à deux cornes qui conquérait toutes choses, dans toutes les directions. Selon Daniel 8, au verset 20, ce bélier représente les rois des Mèdes et des Perses. Un puissant bouc avec une grande corne entre les yeux détruisit totalement le bélier. Verset 5 au verset 7. Selon le verset 21, le bouc, c'est le roi de Javan, Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Après la mort d'Alexandre, la grande corne qui se brisa, verset 8, ce sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force, verset 22. C'est pourquoi, dans Daniel 7, le troisième royaume est représenté comme une créature à quatre têtes. Ces événements plantent le décor pour le quatrième royaume décrit dans Daniel 7, caractérisé comme étant plus terrible qu'aucun des animaux précédents. Daniel représente ce royaume par deux jambes de fer, et Daniel 7 le dépeint comme une créature avec des dents de fer. Daniel 2, au verset 40, explique « Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. » Notez ce que Daniel 7, au verset 19 à 23, nous révèle au sujet de ce quatrième royaume. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qu'il restait. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. C'est ce quatrième royaume, l'Empire romain, qui est dépeint comme continuant d'exister, sous une forme ou une autre, à l'époque du retour du Christ. L'histoire confirmera-t-elle cela? Absolument. De la même manière que les Mèdes et les Perses absorbèrent Babylone et qu'Alexandre le Grand absorba l'Empire Médo-Perse, les Romains absorbèrent les quatre têtes qui sortaient de l'Empire d'Alexandre. Quand Alexandre s'éteignit à Babylone, en l'an 323 avant Jésus-Christ, une tentative fut faite pour maintenir l'unification de son empire. Pour gouverner, une régence fut proclamée conjointement au nom de son neveu et de son fils qui allait naître. Cette tentative échoua. En quelques années, son empire fut divisé en quatre généraux grecs qui se proclamèrent eux-mêmes rois, tout comme Daniel l'avait prédit. Daniel 8, au verset 21 et 22. En l'an 307 avant Jésus-Christ, Antigone et son fils Démétrios s'attribuèrent le titre de roi, puisque Ptolémée et Sélicius, Cassandre et Lysimaque firent de même. L'unité de l'empire d'Alexandre s'acheva ainsi, officiellement. Encyclopédia of World History, William L. Langer, 1968, page 90. Cassandre prit le contrôle de la Grèce et de la Macédoine, et avec l'aide de Lysimaque et Sélicius, il triompha sur Antigone, qui fut tué à la bataille d'Ipsus, en l'an 301 avant Jésus-Christ. Cependant, après cela, la dynastie de Cassandre fut renversée en l'an 276 avant Jésus-Christ par le petit-fils d'Antigone, Antigone II, qui établit une dynastie allant de la Grèce et la Macédoine jusqu'à la conquête romaine, en l'an 168 avant Jésus-Christ, lorsque cette région fut incorporée à l'Empire romain. Lysimaque, qui prit le contrôle de l'Asie mineure et s'autoproclamant roi en l'an 365 avant Jésus-Christ, fut apparemment vaincu et tué à la bataille de Copérdoum, en l'an 281 avant Jésus-Christ, par son allié de jadis, Sélicius. Euménès Ier, le gouverneur séleucide de Pergame, Asie mineure, régna ensuite en devenant virtuellement indépendant des Séleucides, aux environs des années 260 avant Jésus-Christ. En l'an 230 avant Jésus-Christ, son successeur prit le titre de roi. Quand Attalos III mourut en l'an 133 avant Jésus-Christ, son royaume de Pergame et d'Asie échut aux Romains. Rome absorba ainsi la seconde tête du léopard de Daniel. Séleucus établit un royaume qui s'étendait de Babylone vers l'est, jusqu'en Syrie vers l'ouest. La dynastie séleucide, ainsi mise en place, exista et régna jusqu'en l'an 64 avant Jésus-Christ, date où le général romain Pompée fit de la Syrie une province de l'Empire romain en pleine expansion. Le général macédonien Ptolémée s'attribua lui-même le titre de roi, en même temps que ses trois contemporains, Cassandre, Lysimaque et Séleucus. Son royaume était situé en Égypte, et il se poursuivit sous ses descendants jusqu'à la mort de Cléopâtre en l'an 30 avant Jésus-Christ. Après sa défaite face aux Romains, un an plus tôt, le neveu de Jules César, Octave, aussi appelé Auguste César ou César Auguste, à voir, vainquit les armées de Cléopâtre et de Marc-Antoine à la bataille d'Actium et l'intégra l'Égypte à l'Empire romain. Ce fut la fin de la dernière des monarchies hellénistes. Langer, page 97. Avec cette conquête, les quatre têtes du léopard gréco-macédonien faisaient partie intégrante de l'Empire romain. La quatrième bête de Daniel 7. Chapitre 2, la bête de l'Apocalypse révélée. Napoléon, Hitler et Saddam Hussein ont tous quelque chose en commun, de même que Mikhail Gorbatchev, Benito Mussolini, Franklin Roosevelt et plusieurs des papes, quelques-uns ont été désignés, outre les innombrables autres figures, connues ou inconnues, comme étant la mystérieuse bête décrite dans le livre de l'Apocalypse. Dans le siècle passé, des institutions comme la Société des Nations, les Nations Unies, l'International Communiste et même le gouvernement des États-Unis ont aussi été appelées la bête. D'autres commentateurs supposent que le livre de l'Apocalypse pouvait seulement être compris comme étant une métaphore de la bataille entre le bien et le mal. Pour ces commentateurs, la bête est la personnification du mal et non pas une figure historique ou une institution. Mais posons-nous la question, n'y a-t-il pas toutes sortes de vues et d'interprétations humaines des prophéties bibliques? Bien sûr que si. Il semble que la majorité des prétendus commentateurs commencent avec ce qu'ils voient sur la scène mondiale et qu'ils essayent ensuite de trouver cela dans la Bible. C'est pourquoi à peu près tous ceux qui commentèrent les prophéties bibliques dans les années 50 et 60 identifièrent l'empire communiste de l'Union soviétique comme étant la bête écarlate de l'Apocalypse. Quelques années plus tard, ce fut Saddam Hussein. Aujourd'hui, de nombreux commentateurs identifient le nouvel ordre mondial, les Nations Unies, comme la bête. Il semble qu'il y ait autant d'interprétations que de commentateurs. Le Dieu suprême n'a pas destiné les prophéties bibliques à être comprises en un exercice d'imagination créatrice. Les prophéties ne peuvent être comprises ni en regardant les événements contemporains, ni en essayant de trouver les récits de ces événements dans la Bible. Au contraire, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. 2 Pierre 1 au verset 20. Si la Bible utilise un langage symbolique, elle renferme aussi dans ses textes les clés pour comprendre la signification des symboles. L'examen d'Apocalypse 13. L'apôtre Jean, étant âgé, était debout sur la côte sablonneuse de l'île de Patmos, en mer Méditerranée. Comme il contemplait la mer, la scène suivante lui apparut. Des nuages sombres se levèrent et la mer s'agita. Alors qu'il regardait fixement, une étrange créature sortit des eaux. Elle avait un corps de léopard, une gueule de lion et des pieds d'ours. Cela reprend les caractéristiques majeures des trois premières créatures que Daniel avait vues dans sa vision. Daniel 7. La bête vue par Jean avait également sept têtes et 10 cornes. Puis nous lisons que le dragon donna à cette créature puissance et autorité. Finalement, une tête de cette créature fut blessée à mort, puis elle fut guérie. Après la guérison, la créature perdura pendant 42 mois. Apocalypse 13 au verset 1 à 5. Une scène quasi similaire était décrite dans Daniel 7. Dans sa vision, Daniel avait vu quatre créatures, un lion, un ours, un léopard à 4 têtes et une grande créature terrible avec 10 cornes, sortie des ténèbres et d'une mer houleuse. Daniel 7 au verset 1 à 7. Les créatures vues par Daniel identifiaient clairement la succession de l'empire babylonien de Nebuchadnezzar, de l'empire médo-perse, de l'empire grec d'Alexandre qui fut divisé en 4 après sa mort, et finalement de l'empire romain. C'est de la quatrième créature, symbolisant l'empire romain, que sortirent les 10 cornes. Remarquez la similitude entre les deux récits. Dans chaque cas, il y a 7 têtes. Dans Apocalypse 13, l'apôtre Jean vit une créature, et non 4 créatures distinctes, mais les caractéristiques étaient les mêmes. 7 têtes et 10 cornes sont décrites. Dans les deux récits, les prophètes utilisèrent les symboles d'un lion, d'un ours et d'un léopard. Pourquoi y a-t-il des différences entre les visions? Lorsque Daniel eut sa vision, elle représentait le futur de façon globale. Babylone, symbolisée par un lion, était en scène, mais les autres devaient encore arriver. Quand l'apôtre Jean écrivit près de 600 ans plus tard, Babylone, la Perse et la Grèce avaient existé dans l'histoire. Jean ne s'attarda pas sur les différentes têtes qui s'étaient levées, mais il met plutôt l'accent sur les détails concernant la 7e tête, celle qui existait à son époque et dont il écrivait l'histoire à l'avance. Daniel mit l'accent sur les 4 empires, tandis que Jean se focalisa sur un système tirant son origine de Babylone. Il vit les différents empires comme de simples têtes appartenant à une même créature. Ce que vit Daniel commençait à son époque pour se terminer avec le retour du Christ, lorsque les saints prendront possession du royaume. Daniel 7 au verset 18. L'empire romain de l'époque de l'apôtre Jean n'était que la continuité de ce qui avait commencé avec Babylone. Rappelez-vous que la Bible interprète ses propres symboles. Daniel 7 au verset 23 montre 4 créatures, englobant 7 têtes, représentant des royaumes. Dans Apocalypse 17 au verset 9 à 10, les 7 têtes de la bête sont identifiées comme étant 7 montagnes ou 7 rois. Selon Daniel 7 au verset 24 et Apocalypse 17 au verset 12, les cornes symbolisent des rois ou des royaumes. Quant au dragon, qui est la source de puissance de ce système, Apocalypse 12 au verset 9 nous dit que le grand dragon, le serpent ancien, est appelé le diable et Satan. Qu'en est-il de la tête dont la blessure mortelle fut guérie? Souvenez-vous de la bête à 7 têtes, décrite dans Apocalypse 13. Seule la dernière et 7e tête, l'Empire romain, existait à l'époque de Jean. L'accomplissement des 6 premières têtes avait eu lieu à l'époque des écrits de l'apôtre Jean. L'Empire romain reçut-il une blessure mortelle? puis fut-il guéri et vécut-il pendant les 42 mois prophétisés? La date de démarcation entre l'histoire ancienne et l'histoire médiévale est 476 après Jésus-Christ. Cette date, la chute traditionnelle de l'Empire romain, marque l'assassinat du dernier empereur romain de l'Occident, Romulus Augustule, par les barbares. Dans le chapitre suivant, nous examinerons cette renaissance ultérieure de l'Empire. Mais premièrement, notez un autre détail décrit à la fois dans Daniel 7 et Apocalypse 13. Dans chacun de ces récits, nous lisons que 10 cornes s'élevèrent de la 7e tête de la bête, l'Empire romain. L'apôtre Jean vit que chacune des 10 cornes était couronnée, Apocalypse 13 au verset 1. Et Daniel expliqua qu'elle représentait des rois ou des royaumes, Daniel 7 au verset 24. Daniel nous dit également qu'une petite corne sortit au milieu des 10 cornes et que 3 grandes cornes furent arrachées devant elle. Pour comprendre ce que cela signifie, nous devons d'abord examiner l'histoire de l'Empire romain. L'histoire des 3 premières cornes. En 286 après Jésus-Christ, l'empereur Dioclétien divisa l'Empire romain en 2 parties, dans un but administratif, entre l'Est et l'Ouest. Cela était représenté par les 2 jambes, décrites dans Daniel 2. Cependant, de graves troubles se produisirent ultérieurement dans la jambe Ouest. En 400 après Jésus-Christ, l'Empire de l'Ouest entra dans sa période d'agonie. Avec les incursions barbares suivantes, Rome fut saccagée et pillée, pour la première fois depuis 8 siècles, par Alaric et ses Visigoths en 409 après Jésus-Christ. Après que l'Empire romain fut effondré, 3 groupes d'envahisseurs barbares, les Vandales, les Hérules et les Ostrogoths, tentèrent de s'établir eux-mêmes comme les successeurs des empereurs romains de l'Ouest. L'empereur de l'Est les reconnut officiellement tous les 3 comme étant une continuation de gouvernement romain occidental légitime. Cependant, un autre chef émergent de l'Ouest réussit à les évincer et à les renverser. Ce chef émergent fut l'évêque de Rome. Tandis que les empereurs occidentaux s'affaiblissaient, sa puissance et sa stature augmentaient. Cela n'incluait pas seulement une puissance religieuse croissante sur la communauté chrétienne, mais aussi une puissance civile et politique. Les Vandales et les Hérules et les Ostrogoths étaient particulièrement gênés. Les Vandales envahirent l'Afrique du Nord en 429 après Jésus-Christ. Après quelques années de combats, ils entérinèrent un traité en 435 dans lequel les Romains les reconnaissaient comme le prolongement légitime de l'Empire en Afrique du Nord. Languerre, page 135. Les Vandales cherchèrent à étendre leur puissance jusqu'à devenir les successeurs de Rome. En 455, ils pillèrent même la ville de Rome. Ils le firent de façon si complète que depuis ce jour-là, le nom de Vandale est attaché à ceux qui détruisent les biens des autres. Mais finalement, les Vandales furent renversés. En Afrique, les Vandales étaient insultés d'Arien par l'église de Rome. Et ils avaient à faire face à de sérieuses révoltes berbères. Mais leur puissance ne fut pas brisée jusqu'aux guerres vandales de Justinien, l'empereur d'Orient, en 533 jusqu'en 548. Languerre, page 159. En 476, environ 20 ans après le saccage de Rome par les Vandales, les Hérules, sous leur chef Odoacre, destituèrent Romulus Augustule, le dernier empereur romain de l'Ouest. Odoacre fut reconnu comme le prolongement légitime du gouvernement romain en Italie par l'empereur d'Orient. Cependant, c'était également un Arien, et après avoir été appelé par l'évêque de Rome, Zénon dépêcha Théodoric, le chef des Ostrogoths, pour chasser les Hérules en 488. Les évêques orthodoxes d'Italie, qui n'aiment pas l'arianisme d'Odoacre, soutiennent l'envahisseur arien, Théodoric, comme le représentant d'un empereur à peu près orthodoxe. Avec leur aide, Théodoric brisa la vigoureuse résistance d'Odoacre en 5 ans de guerre et le persuada de signer une paix de compromis en 493. Il invita Odoacre et son fils à un dîner à Ravenne, les nourrit généreusement et les égorgea de sa propre main. Will Durant, L'histoire de la civilisation, volume 10, page 169, édition Rencontre, Lausanne, traduction de François Vaudou. Les coutumes des Ostrogoths d'Italie étaient acceptées comme un mal nécessaire pour se débarrasser des Hérules, mais elles restaient impopulaires à l'évêque de Rome et à la population catholique romaine. Le général Bélisaire, qui avait été envoyé de Constantinople en 533 après Jésus-Christ, avec 500 navires de transport et 92 bateaux de guerre pour débarrasser l'Afrique des Vandales, arriva en Italie en 536 pour chasser les Ostrogoths. Les forces des Ostrogothiques étaient maigres et divisées. Le peuple de Rome acclama Bélitzer comme un libérateur. Le clergé l'accueillit comme un trinitaire. Il entra dans Rome sans opposition. Durand, volume 10, page 187. Ainsi, les trois premières cornes furent arrachées sur ordre de l'évêque de Rome, la petite corne dans Daniel 7. La scène était préparée pour accueillir la véritable renaissance de l'Empire romain d'Occident. Cette renaissance qui s'installa en 554, de même que les renaissances successives ultérieures, ont toutes impliqué la bénédiction de l'évêque de Rome, et son rôle est intimement lié aux divers prolongements de l'Empire de la Rome antique. Chapitre 3. Rome ancienne et future maître du monde. Les affiches touristiques présentent une Rome fascinante, une cité campée sur sept collines, couverte de célèbres monuments architecturaux du passé et du présent. Rome est une ville de contrastes. De vieux bâtiments et d'anciennes ruines se bousculent et côtoient une cité moderne florissante. 27 siècles ont passé depuis sa fondation légendaire par Romulus et Rémus. Pendant cette longue période, cette cité remarquable a joué un rôle incomparable dans l'histoire de la civilisation occidentale, étant en permanence une ville d'intrigue et de puissance. Nichée à l'intérieur de la ville de Rome se trouve le plus petit territoire souverain au monde, la cité du Vatican. Entretenant ses propres relations diplomatiques avec toutes les grandes puissances, cette minuscule ville-État, gouvernée par le pontife romain, est un participant actif dans les affaires internationales. Cependant, le Vatican aspire à être un des seuls participants. Il cherche, une fois encore, à remplir le rôle de guide qu'il joua pendant de nombreux siècles. Bien que l'ancien empire de Rome reçut une blessure fatale avec la mort du dernier empereur en 476 après Jésus-Christ, néanmoins, ce n'était pas la fin de l'histoire. Les trois premiers royaumes sortant de l'ancien empire romain, les Vandales, les Hérules et les Ostrogoths, étaient décimés. La puissance de l'empereur d'Orient, Justinien, accomplit cette destruction, à la demande du pape de Rome. La restauration impériale de Justinien en 554 guérit la blessure mortelle et fit débuter la première des six tentatives de renaissance et de continuation de l'empire de la Rome antique. Et selon la Bible, il y a une septième et dernière corne qui doit encore venir. Votre vie sera profondément affectée par les événements qui auront encore lieu dans la ville appelée par ses habitants la cité éternelle. La guérison de la blessure mortelle. À la fin des guerres gothiques en 553 après Jésus-Christ, l'Italie se retrouvait dans la pauvreté et le désordre. Rome avait été capturée, assiégée, pillée et avait subi la famine. Finalement, les armées de l'empereur romain d'Orient, Justinien, furent victorieuses. Les armées de Justinien l'avaient donc emporté en reconquérant l'Italie et les restes de l'Empire occidental. Mais comment Justinien allait-il donc gouverner cela? La réponse se trouve dans une alliance de l'Église et de l'État qui, depuis, a formé l'histoire de l'Europe occidentale. Bien que l'autorité séculaire occidentale s'était effondrée, la persistance de l'organisation ecclésiastique sous l'évêque de Rome apparut même aux empereurs comme le salut de l'État. En 554, Justinien promulgua un décret exigeant que des gens aptes, capables d'administrer les gouvernements locaux, soient choisis comme gouverneurs de province par les évêques et les principaux personnages de chaque province. Will Durant, L'histoire de la civilisation, volume 11, page 291 à 292. Cet événement est connu dans l'histoire sous le nom de la Restauration impériale. Les empereurs de Byzance continuèrent à régner en Occident sous le titre d'Imperium Romanum, de 554 à 800. Cependant, selon les termes du décret de Justinien, c'étaient les évêques de Rome, maintenant appelés papes, qui tenaient les rênes de la puissance, et qui étaient les véritables cavaliers montant la bête impériale en Occident. À ce stade, il est important de noter qu'il y a une différence significative entre la bête décrite dans Apocalypse 13 et celle décrite dans Apocalypse 17. La bête d'Apocalypse 13 correspond à la vision de Daniel dans Daniel 7. L'apôtre Jean décrit une créature qui commença avec Babylone, sous Nebuchadnezzar, et continua à son époque. Excepté la septième tête, l'Empire romain qui deviendra dix royaumes, Daniel 7 explique que les trois premières de ces dix cornes seront arrachées. Cependant, la bête d'Apocalypse 17 est différente. C'est une créature chevauchée par la femme, différente de la première description. La bête d'Apocalypse 17 est une bête qui était et qui n'est plus, verset 11. L'Empire romain après la guérison de la blessure mortelle. Ce que l'histoire a ironiquement et par tromperie appelé le Saint-Empire romain, dominé par l'Église de Rome, qui a perduré sous diverses renaissances de 554 à nos temps modernes, à nos jours. Apocalypse 17:11 explique que la bête est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition. C'est une continuation de la créature à sept têtes, décrite dans Apocalypse 13. Mais cette créature est en quelque sorte comme une huitième tête, qui apparaît après que la dernière tête de la bête d'Apocalypse 13 eut reçu une blessure mortelle. Les sept têtes de la bête d'Apocalypse 17 sont sept royaumes, verset 10. Elles sont sept survivances du Saint-Empire romain correspondant aux sept dernières des dix cornes, dans Daniel 7 et Apocalypse 13. Les dix cornes d'Apocalypse 17 sont aussi dix rois ou royaumes, verset 12. Ils donneront leur puissance à la dernière survivance du Saint-Empire romain et seront détruits par le Christ, à son retour, verset 14. Cela correspond aux dix orteils de la statue décrite dans Daniel 2. À présent, regardons d'un peu plus près l'histoire des sept têtes mentionnées dans Apocalypse 17. Dans les années qui suivirent la restauration impériale, les empereurs orientaux, en général, concentrèrent plutôt leur attention sur les terres où ils vivaient, l'Asie mineure. La protection et la sécurité que les empereurs orientaux assuraient à l'Occident étaient négligeables. Des négociations privées entre Charles, roi de France, et Léon, évêque de Rome, furent entreprises pour résoudre ce problème. Le résultat des négociations devint manifeste en 800 après Jésus-Christ. Le jour de Noël, comme Charlemagne, roi de France, vêtu de la chlamyde et des sandales de Patricius Romanus, était agenouillé en prière devant l'autel de Saint-Pierre, Léon, le pape, exhiba tout à coup une couronne sertie de bijoux et la posa sur la tête du roi. Les fidèles à qui on avait peut-être demandé auparavant de suivre l'ancien rite du Senatus Populisque Romanus, confirmant un couronnement, crièrent trois fois « Salut à Charles l'Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur des Romains !» La tête du roi fut ointe d'huile sainte, le pape salua Charlemagne, empereur et Auguste, et lui offrit l'acte d'hommage réservé depuis 476 à l'empereur d'Orient. Durand, volume 11, page 209. Après quelques années de disputes, l'empereur d'Orient à Byzance reconnut Charlemagne comme co-empereur. L'impérium de l'Ouest était déjà la seconde tête depuis l'époque de la blessure mortelle, en 476, et sa guérison ultérieure en 554. L'une sur demande papale, l'autre avec la bénédiction papale. En tant qu'historien, Will Durant remarque que de cette coopération intime de l'Église et de l'État sortit l'une des idées les plus brillantes de l'histoire de la politique. La transformation du royaume de Charlemagne en un Saint-Empire romain qui aurait derrière lui tout le prestige, la sainteté et la stabilité des deux Roms, celle des empereurs et celle des papes. Durant, volume 11, page 208. Au cours des 150 années qui suivirent le couronnement de Charlemagne, son empire se désintégra lentement à cause de la faiblesse de ses successeurs. Vers 936, les Saxons de Germanie étaient devenus le plus puissant groupe d'Europe centrale. En 995, Othon, duc de Saxe et roi des Germains, défie les Magyars qui se préparaient à envahir l'Europe occidentale. Quelques années plus tard, Othon fit son entrée en Italie à la requête du pape Jean XII. Pour rétablir son autorité, suite à cela, il reçut la couronne impériale à Pavie en 962. Une fois de plus, le fantôme de l'Empire romain fut rappelé pour consacrer la réussite de l'édification de l'État d'un roi semi-barbare. Handbook of Western Civilization, William McNeill, page 317. Le couronnement d'Othon marqua l'inauguration de la troisième tête dans la continuité de l'Empire depuis la restauration impériale de Justinien. Comment les contemporains d'Othon et leurs successeurs voyaient-ils la signification de cette survivance de l'Empire ? L'historien Robert Herzstein écrit « L'Empire n'assumait pas seulement la signification de ce terme, mais il assumait aussi la fonction de récent chrétien universel pour Dieu sur terre, jusqu'à la venue de l'Antéchrist. Comme Charlemagne, Othon reçut son trône par la proclamation papale de l'Église romaine, qui était la seule électrice impériale depuis le début du IVe siècle. Le Saint-Empire romain fut ainsi en grande partie germanique dans son ethnie et sa base politique, chrétien dans sa justification morale et romain dans sa déclaration de légitimité et d'universalité. The Holy Roman Empire in the Middle Ages, Edition Herzstein, page 8. Dans un essai intitulé « L'Empire en tant que régence pour Dieu sur la Terre », un célèbre historien autrichien, Friedrich Ehr, écrit « La tâche de l'Empire était d'être l'agent principal de Dieu sur Terre pour accomplir avec tous les pouvoirs son objectif ici-bas, de protéger la chrétienté et l'Église et de préserver la justice de Dieu et l'ordre divin de l'univers sur Terre. L'Empire terrestre était le reflet transitoire de la cité éternelle de Dieu. » Les symboles impériaux montrent que cela s'étendait au monde entier, avec le globe impérial qui couvrait les quatre coins de la terre. L'empereur tenait le monde entier dans la main. L'empereur nommait la couronne impériale Corona Urbis et Orbis, la couronne de la cité et du globe. Il se considérait lui-même comme le Caput Mundi, à la tête du monde, et comme le Dominator Orbis et Urbis, le gouverneur du globe et de la cité de Rome. Erchstein, page 64-65. La survivance impériale d'Othon se poursuivit pendant environ 300 ans. Finalement, après la mort de Conrad IV en 1254, l'Empire fut tellement déchiré par des factions rivales qu'il résulta 19 ans d'hétérognome, période de temps sans empereur. En fin de compte, Rodolphe Ier fut élu empereur en 1273, le premier de la famille des Habsbourg à être élevé au trône impérial. Le point culminant de cette quatrième survivance de l'ancien Imperium romain fut le couronnement d'un descendant de Rodolphe, Charles Quint, par le pape Clément VII en 1530. Charles régna sur un vaste empire. De sa mère, Jeanne, fille de Ferdinand et Isabelle d'Espagne, il hérita l'Espagne et toutes les possessions espagnoles dans le Nouveau Monde. De son père, il hérita le vaste territoire des Habsbourg en Germanie, en Italie et en Europe centrale. Après Charles Quint, la puissance des Habsbourg fut affaiblie. Au cours du XVIIIe siècle, le titre de Saint-Empereur romain était devenu un titre vide. Dans la dernière décennie du XVIIIe siècle, toute l'Europe était agitée par la Révolution française et ses conséquences. Un homme à la fois hautement doué et surprenamment ambitieux prit le pouvoir en France. Son nom est Napoléon. Il aspirait à être plus que le président d'une République française ou même qu'un nouveau roi de France. Son ambition ne pouvait être satisfaite que par le rétablissement de l'Empire romain, avec lui-même comme empereur. Comme le remarque l'historien Will Durant, il rêvait de rivaliser avec Charlemagne et d'unifier l'Europe occidentale. Napoléon se considérait comme le successeur de César et de Charlemagne. Suite à un plébiscite en sa faveur au cours d'un vote, 3 572 329 voix contre 2 569, Napoléon fut proclamé empereur par le Sénat français. Le 18 mai 1804. Immédiatement après, il entama des discussions avec le pape Pie VII, afin de venir à Paris et de le consacrer comme empereur. Ces négociations furent un succès et le couronnement eut lieu le 2 décembre. Les Habsbourg d'Autriche ressentaient douloureusement les succès diplomatiques et militaires de Napoléon, particulièrement son accession au titre d'empereur. 2 ans plus tard, à l'instigation de Napoléon, 16 princes et leur état, séparés du Saint-Empire romain, formèrent la Confédération du Rhin et demandèrent la protection à Napoléon comme faisant partie de son empire. Les mois suivants, le 6 août 1806, Francis II renonça à son titre, maintenant vide d'empereur du Saint-Empire romain. L'empire européen de Napoléon s'étendait maintenant de l'Atlantique à l'Elbe. L'Espagne, la France, la Hollande, la Belgique, l'Allemagne occidentale et finalement toute l'Italie formaient son empire renouvelé. Napoléon fut la cinquième tête de la survivance de l'Imperium occidental depuis l'époque de Justinien. L'Empire de Napoléon n'était pourtant pas destiné à un long avenir. Une coalition dirigée par les Britanniques provoqua sa défaite et son abdication en 1814. Cela mit fin à une période de 1260 ans depuis la restauration impériale sous Justinien en 554. La prophétie dans Apocalypse 13 au verset 3 et 5 de la bête recevant une blessure mortelle, ayant été guérie et recevant le pouvoir d'agir pendant 42 mois, était accomplie. 42 mois de 30 jours équivalent à 1260 jours. L'abdication de Napoléon marqua la fin d'une époque. D'après les prophéties, il devrait encore y avoir 2 tentatives supplémentaires pour faire revivre la gloire et la grandeur de la Rome antique. 2 survivances finales. L'une est passée et l'autre doit encore arriver. Après la chute de Napoléon en 1814, l'Allemagne et l'Italie restèrent divisées et impuissantes jusqu'à la moitié du siècle suivant. Chacune était constituée d'une multitude de petits États et de principautés. Elles étaient déchirées par des querelles internes. Vers 1871, Bismarck réussit à unifier toute l'Allemagne, qui n'était pas au Habsbourg, sous le roi de Prusse, tandis que Garibaldi opérait la réunification de toute l'Italie sous le roi du Nord de l'Italie de Piémont-Sardaigne. 50 ans après l'inauguration de l'Union de Garibaldi, un homme fort qui rêvait une fois encore de restaurer la grandeur et la gloire de la Rome antique commença à s'élever dans cette Italie unifiée. Son nom était Benito Mussolini. Il conduisit son parti fasciste au pouvoir en 1922. Les fascistes tirent le nom de fasces de la Rome impériale. Le fasces était une hache enveloppée dans une botte de tige signifiant l'unité et l'autorité. Il était porté par les consuls romains en tant que symbole de leur charge. Depuis 1870, quand les armées du roi Victor Emmanuel d'Italie avaient été défaites par celles du pape et capturées à Rome, il existait une froide tension entre les papes et les nouveaux dirigeants de l'Italie. Finalement, en 1929, Mussolini signa le traité de Latran avec la papauté, qui établissait la souveraineté papale sur la cité du Vatican et faisait du gouvernement de Mussolini le premier gouvernement italien dans l'histoire moderne officiellement reconnu par le pape. Le concordat signé entre la papauté et le gouvernement fasciste d'Italie était un prélude de celui signé 4 ans plus tard entre la papauté et le gouvernement nazi allemand. Le rôle du Vatican en établissant à la fois la puissance de Mussolini et d'Hitler était détaillé dans un livre récent intitulé « Le pape et Hitler ». Histoire secrète de Pie XII, John Corwell, publié en français aux éditions Albin Michel, 1999. Soucieux de restaurer la gloire, Mussolini chercha des places à conquérir. L'Éthiopie, dont les armées avaient mis en déroute les Italiens dans l'Est africain en 1896, semblait un objectif possible. Les armées de Mussolini envahirent avec succès l'Éthiopie et la Somalie. En 1936, il proclama prétentieusement, après 15 siècles, la réapparition de l'Empire sur la destinée des collines de Rome. Ensuite, Mussolini réussit une alliance avec Adolf Hitler, le dirigeant de l'Allemagne depuis 1933, dont il résulta l'axe Rome-Berlin de la Deuxième Guerre mondiale. Cette sixième tentative d'unification de l'Europe pour faire revivre le concept de la Rome impériale sombra dans les flammes et l'ignominie en 1945. Vu les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup dirent que l'époque Europe était finie. Les villes, les campagnes et les économies nationales étaient dévastées à travers tout le continent, particulièrement en Allemagne. Beaucoup pensaient que, dans le futur, le communisme gagnerait l'Europe. Après tout, Staline avait implanté la botte russe sur une grande partie de l'Europe, juste après la guerre. L'idée d'une Allemagne à la tête de l'Europe, jouant un rôle dominant dans les affaires mondiales, était une chose que la plupart des observateurs disaient impossible. Mais déjà en 1957, 12 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le traité de Rome instituait un embryon de marché commun comprenant la France, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie et les trois États du Benelux. C'est l'ancêtre direct de l'actuelle puissante Union européenne. Des prophéties pour notre époque et pour plus tard. L'Union européenne est-elle en train de préparer la scène pour le futur? Une septième et dernière tentative de résurrection de la grandeur et de la force de la Rome impériale? En comparant Daniel 7 et Apocalypse 13, il apparaît que les 10 cornes des royaumes sont décrites comme surgissant de l'Empire romain, la septième tête de la bête. Les trois premières de ces cornes, les Vandales, les Hérules et les Ostrogoths, furent arrachées à la demande de la papauté. C'est la réalisation de la prophétie de Daniel 7 au verset 7 et 8 et Daniel 7 au verset 23 à 25, où il reste les 7 cornes finales. 6 tentatives pour restaurer l'empire de la Rome antique ont reçu l'encouragement papal. Ces renaissances se sont élevées puis ont chuté. Elles font maintenant partie de l'histoire. L'histoire des 7 survivances, 6 sont passées, une est encore à venir, est aussi décrite symboliquement dans Apocalypse 17. Ici, nous voyons l'image d'une autre bête à 7 têtes et 10 cornes. Cette créature est différente de celle de Daniel 7 et d'Apocalypse 13. Celle-ci est chevauchée par une femme symbolisant une organisation religieuse appelée Mystère Babylone la Grande. En d'autres mots, c'est un prolongement de l'ancienne religion mystérieuse de Babylone, maintenant devenue grande et puissante. La créature à 7 têtes d'Apocalypse 17 représente clairement le 7 empire romain, car les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Apocalypse 17 au verset 9. Au verset 10, les 7 montagnes sont identifiées comme étant 7 rois ou royaumes. Les créatures dépeintes dans Daniel 7 et Apocalypse 13 ne sont pas chevauchées par la femme, contrairement à la bête d'Apocalypse 17. Comme la précédente, elle a 10 cornes sur sa dernière tête. Dans Apocalypse 17, les 10 cornes représentent 10 rois à venir, qui donneront collectivement leur puissance et leur autorité à la bête, à la fin de la dernière survivance du Saint-Empire romain. Cette époque est encore devant nous, car ces 10 rois combattront contre le Christ à son retour. Apocalypse 17 au verset 12 à 14 et au verset 17. Cela nous renvoie à la première vision que Daniel avait interprétée, la statue dans Daniel 2 où les deux jambes de fer se terminent par des pieds composés d'un mélange de fer et d'argile. Les 10 orteils, 5 à chaque pied, furent brisés par le Christ à son retour, avant qu'il rétablisse le royaume de Dieu sur la terre. Daniel 2 au verset 34 et 35 et Daniel 2 au verset 42 à 44. Les 10 orteils dans Daniel 2 et les 10 cornes dans Apocalypse 17 sont des synonymes symbolisant 10 gouvernants, qui supporteront collectivement et déclareront allégeance à la 7e et dernière résurrection de l'Empire romain. Les jambes dans Daniel 2 représentent l'Empire romain divisé entre l'Empire oriental et l'Empire occidental par l'empereur Dioclétien en 286 après Jésus-Christ. La prophétie biblique met l'accent sur l'Empire occidental, la bête chevauchée par la femme. Cependant, Daniel 2 montre que la jambe orientale aura sa part à jouer dans la renaissance finale. L'Empire romain oriental s'est poursuivi avec des empereurs siégeant à Constantinople jusqu'en 1453, lorsque les Turcs ottomans envahirent la cité et tuèrent le dernier empereur, Constantin XI. Mais ce n'est pas la fin de la jambe orientale. En 1472, 19 ans après la chute de Constantinople, le pape officia à une cérémonie de mariage entre Ivan le Grand, duc de Moscovie, et Zoé, nièce et héritière du dernier empereur. Le mariage revêtait de l'importance en établissant la proclamation qui faisait des gouvernants de la Russie, les successeurs des empereurs grecs et les protecteurs du christianisme orthodoxe. Ivan prit le titre de tsar, ou tsar, c'est-à-dire César, Languerre, page 342. Ainsi, traversant l'histoire, l'Empire romain continua comme deux jambes. Deux individus se proclamaient être les successeurs de César. Dans le monde latin, germanique et catholique d'Occident, le titre était « Kaiser ». Dans le monde grec, slave et orthodoxe d'Orient, c'était « Tsar ». Celui qui annonce dès le commencement ce qui doit arriver, Ésaïe 49 au verset 10, révèle que finalement, 10 rois ou dirigeants, qui sont l'un et l'autre les successeurs des deux jambes orientales et occidentales, voudront s'unir. Ils formeront la dernière survivance de l'Empire romain, la dernière incarnation de Babylone. Il y a plusieurs mauvaises nouvelles à venir. Ces 10 derniers dirigeants apporteront leur soutien à une union future de l'Église et de l'État en Europe, qui aspirera à dominer le monde. Comme le constata Johannes Haller, un historien allemand populaire décédé en 1947, je cite, « Dans la mémoire du peuple germanique, le vieil empire, cet empire romain, vit d'une époque de grandeur et de splendeur qui doit apparaître un jour pour le faire vivre encore. The Greatest Epoch of the German People, 1944. » Après un interlude de paix apparente et de prospérité, ce système plongera le monde entier dans un atroce cauchemar. Si Dieu n'intervenait pas en envoyant Jésus-Christ sur cette terre, il en résulterait une si grande destruction qu'aucune chair ne pourrait survivre. Matthieu 24 au verset 21 et 22 et 29 à 30. Cependant, au-delà de ces mauvaises nouvelles, il y a de bonnes nouvelles, les meilleures possibles. À l'époque de cette union finale de dirigeants européens, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Il sera établi pour toujours. Daniel 2 au verset 44. Chapitre 4. La mystérieuse marque de la bête. Aucun sujet prophétique n'a soulevé autant de conjectures et de spéculations que la marque de la bête. En plus d'une marque, Apocalypse 13 mentionne aussi une incarnation de la bête, ainsi que le mystérieux nombre de son nom, 666. Quelle est la signification de ces mystérieux symboles? Avant d'examiner le nombre, l'image ou la marque de la bête, considérons ce que nous avons établi jusqu'à présent. La bête des temps de la fin est clairement identifiée dans la Bible comme le successeur moderne de l'empire de l'ancienne Babylone. Le prophète Daniel identifia 4 royaumes successifs, Babylone, la Perse, la Grèce et Rome. Rome, le 4e royaume, se poursuivit sous 7 survivances avant le retour du Messie, lorsque le Dieu des cieux détruira la dernière survivance de l'empire romain et établira un royaume qui durera à jamais. Puisque l'Empire romain est la bête décrite par l'apôtre Jean dans Apocalypse 13 et 17, La marque est un insigne ou une marque de l'Empire romain. L'image de la bête doit être quelque chose de modelé ou de reproduit selon l'Empire romain. Avant de poursuivre, notez qu'Apocalypse 13 mentionne une seconde bête d'origine terrestre et non céleste. Verset 11. À première vue, elle semble être déguisée en chrétienne, cherchant à être identifiée comme le Christ, l'agneau de Dieu. Jean 1 au verset 29. Mais recevant sa puissance du diable, qui est le serpent ancien, Apocalypse 12 au verset 9, dans la prophétie, les cornes sont utilisées pour représenter un gouvernement ou une autorité. Et cette créature est représentée avec deux cornes. Apocalypse 13 au verset 12 révèle que cette seconde bête exige que tous fassent preuve d'allégeance et de loyauté envers le Saint-Empire romain, la bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Verset 12. Cette seconde bête est décrite comme accomplissant de grands miracles et séduisant l'humanité. Verset 13 à 14. Dans Matthieu 24 au verset 24, le Christ prophétisa de faux Christs qui séduiront beaucoup de gens, sauf les véritables élus. Historiquement, y a-t-il une institution proclamant représenter le Christ comme un agneau, Apocalypse 13 au verset 11, et séduisant la population par divers prodiges, verset 14? Une institution qui enseigne le message erroné du diable et qui est à l'opposé de la loi divine et qui insiste auprès de ses partisans pour qu'ils fassent preuve de loyauté envers le Saint-Empire romain? C'est exactement ce que fit l'Église de Rome pendant toute la période médiévale. Pourquoi deux cornes? L'Église de Rome est à la fois un gouvernement ecclésiastique et civil. Le pape est à la fois un dirigeant religieux et la tête civile d'un État. Les prophéties bibliques montrent que l'union Église-État au Moyen-Âge était un précurseur des événements des temps de la fin, qui auront lieu à une beaucoup plus grande échelle. La marque mystérieuse. Que peut donc être la marque ou l'insigne de l'Empire romain? Dans quelques années, cela sera important pour tous ceux qui voudront participer au système économique de Babylone la Grande. Apocalypse 13 au verset 17. Cependant, ceux qui l'accepteront par leur action amèneront aussi sur eux la terrible colère de Dieu. Apocalypse 14 au verset 9 à 10. Quelle que soit cette marque, elle a déjà existé dans les siècles passés, car tous les justes qui furent des martyrs la rejetèrent. Apocalypse 20 au verset 4. En décrivant l'interaction de l'Église de Rome et du Saint-Empire romain médiéval, Apocalypse 13 montre que la marque, l'image et le nombre du nom de la bête ont tous existé pendant le Moyen-Âge, en tant que précurseurs des temps de la fin. Par le passé, beaucoup de suggestions ont été avancées pour identifier cette marque. Dans les années 1930, certains tentèrent de faire le lien avec les cartes de sécurité sociale mises en place par l'administration Roosevelt. D'autres y ont vu des implications sinistres dans un système universel de code à barre lisible par des scanners. D'autres encore ont soupçonné les cartes bancaires et d'autres innovations technologiques. Beaucoup s'attendaient à une sorte de tatouage ou une minuscule puce informatique implantée sous la peau à l'insu de la population. Mais à moins de rechercher tout ce que la Bible révèle à ce sujet, nous serons incapables de comprendre ce sujet. Apocalypse 14 au verset 10 révèle que ceux qui recevront la marque de la bête s'attireront la colère de Dieu. Notez les enseignements de l'apôtre Paul concernant les destinataires de la colère divine. Colossiens 3 au verset 6 nous indique que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La marque de la bête est donc une marque de désobéissance à Dieu. Elle marque ceux qui refusent d'observer les commandements divins, en dépit des enseignements des deux témoins, et même par l'avertissement final donné par un ange de Dieu. Apocalypse 14 au verset 9. La marque de la bête est clairement un signe de désobéissance à Dieu et à ses lois. La Bible révèle-t-elle un signe d'obéissance contrastant qui identifie le véritable peuple de Dieu? Dans Exode 31 au verset 13 à 17, Dieu déclare à l'ancien Israël que ses sabbats sont un signe perpétuel entre lui et son peuple. Le sabbat est le commandement test qui identifie le Dieu véritable de la création et le peuple qui obéit à ses commandements et ses lois. Apocalypse 13 explique que la marque de la bête, un signe de désobéissance à Dieu, est appliquée sur la main ou sur le front. La désobéissance comme l'obéissance aux lois divines sont symbolisées par une marque sur la main ou sur le front. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux. Deutéronome 6 au verset 1 à 2 et 8. La main symbolise les actions, tandis que le front est le siège de l'intellect. L'obéissance à Dieu implique à la fois les œuvres, la main, et les pensées, le front. La marque de la bête est un signe de désobéissance à Dieu. Mais cela implique non seulement le rejet du signe d'obéissance à Dieu, le sabbat, mais aussi l'acceptation d'une marque ou d'un signe contrefait. Cette marque est, en réalité, un signe dérivé de Babylone et de Rome. Y a-t-il un symbole qui a parcouru toutes les époques jusqu'à nos temps modernes? L'adoration du soleil, une ancienne contrefaçon de Satan. Dans l'ancienne Babylone, les rois servaient comme hauts sacrificateurs du soleil, Bel-Marduk. Prendre la main de Bel-Marduk faisait partie de la cérémonie de prise de fonction comme roi en Assyrie et en Babylone. Babylonian and Assyrian Religion, Encyclopædia Britannica, 11e édition. La célébration du solstice d'hiver, autour du 25 décembre, était considérée comme la naissance du soleil. C'était un jour saint majeur associé à une distribution de cadeaux et à un arbre vert sacré. Il n'y a pas que chez les Babyloniens où l'adoration du soleil faisait partie des rites païens. Cela se retrouve également dans les rites de tous les successeurs de Babylone, chez les Perses, puis chez les Hellénistes et à Rome. En fait, pour chaque époque correspondant à l'une des quatre bêtes de Daniel, l'adoration du soleil a joué un rôle prééminent dans la religion impériale. La Perse fut le premier successeur de Babylone. L'ancienne religion perse était centrée sur l'adoration de Mithra, le dieu de la lumière. Sous l'influence babylonienne, Mithra fut ensuite identifié comme le dieu soleil babylonien. Les Grecs d'Asie mineure identifièrent Mithra à leur ancien dieu soleil Hélios et ils contribuèrent à répandre le culte du soleil vers l'ouest. Alexandre le Grand voyagea en Égypte jusqu'au temple d'Amon-Ra, où les prêtres le proclamèrent fils littéral du soleil. Et qu'en est-il de Rome? Mithras, identifié à Sol Invictus à Rome, était celui qui donnait l'autorité et la victoire à la maison impériale. Mithras, Encyclopædia Britannica, 11e édition. Le Lamprey's Classical Dictionary déclare que Sol, le dieu soleil à Rome, était adoré comme Baal ou Bel chez les Chaldéens babyloniens. Page 590. L'Empire romain adopta l'adoration du soleil et de ses symboles chez ses prédécesseurs et le propagea dans tout le monde occidental. De nos jours, dans la Syrie moderne, il y a un petit village arabe qui s'appelle Baalbek. Il est situé sur les ruines de deux temples majestueux qui étaient l'une des fiertés d'Héliopolis, la cité du soleil gréco-romaine. Voici l'explication de l'historien Will Durant. Je cite « Auguste y plaça une modeste colonie et la ville se développa, résidence sacrée de Baal, le dieu soleil. Sous Antonin le Pieux et sous ses successeurs, des architectes et des ingénieurs grecs, romains et syriens élevèrent sur l'emplacement d'un phénicien de Baal un sanctuaire imposant pour Jupiter, Héliopolitanus. L'histoire de la civilisation, Will Durant, volume 9, page 110. Ainsi, le Jupiter romain fut identifié à Baal, l'ancien dieu soleil. Un autre grand centre d'adoration païen du soleil était le temple d'Héliopolis, en Égypte, où avait été érigé un grand obélisque sacré dédié au soleil. Aux environs de l'an 40 après Jésus-Christ, l'empereur romain Caligula fit transporter cet obélisque d'Égypte jusqu'à Rome, où il fut érigé sur le mont du Vatican. En 1586, sur l'ordre du pape Sixtus V, cet ancien obélisque, 25,3 mètres de hauteur pour un poids de 320 tonnes, fut transporté à une courte distance de là. Suite aux efforts de 800 ouvriers, 160 chevaux et 45 treuils, l'obélisque fut érigé juste au milieu du parvis de la cathédrale Saint-Pierre, où il est toujours en place depuis cette époque. Dans la Rome antique, avant l'époque de l'Empire, il y avait un culte dévoué à Sol, le dieu soleil. Dans un livre intitulé « World Religion from Ancient History to the Present », Parander fait un exposé sur l'adoration du soleil en tant que religion de Rome. Je cite « Il est normal que le centre de gravité de l'Empire romain se déplaçât vers l'Est, où l'adoration du soleil était en expansion. Il y avait déjà une forte propagande impérialiste. La maison dorée de Néron était un logement approprié pour l'incarnation du soleil, et Antonin accorda au soleil un honneur particulier. Sous la dynastie dominante, adoratrice du soleil, des Sévérins, le dieu soleil était représenté avec une barbe typiquement sévérine, et l'empereur portait le titre d'Invictus, indomptable, qui était une épithète du soleil. Le soleil était un symbole grandiose, unifiant et ralliant tout l'empire. En 274 après Jésus-Christ, Aurélien établit le dieu soleil comme dieu suprême de l'empire romain. Parander, page 175. empereur de 270 à 280 après Jésus-Christ, Aurélien attribua la responsabilité de 3 siècles de chaos moral et politique à Rome, à la désunion religieuse. Il tenta d'unifier tout l'empire dans un culte monothéiste du dieu soleil et de l'empereur, viscère de cette divinité sur la terre. Il construisit à Rome un magnifique temple du soleil où, espérait-il, le Baal d'Émèse et le dieu du mithriacisme viendraient se fondre. Aurélien accentua l'orientalisation de la monarchie qui avait commencé avec Elagabal et qui se complétera sous Dioclétien et Constantin. Durant, volume 9, pages 307 et 308. Considéré comme le premier empereur chrétien de Rome, Constantin était lui-même un dévot du dieu soleil. En fait, la chrétienté de l'empereur Constantin était ambiguë. Sa famille conservait des allégeances traditionnelles au dieu soleil, la fameuse vision de la croix qui lui vient du ciel alors qu'il marchait vers Rome. Le soleil qui continuait d'apparaître pendant sa décennie sur les pièces de monnaie et sur son arche à Rome. Sa propre statue à Constantinople portant la couronne rayonnante du dieu Sol. Parender, page 175. Au 1er siècle, la semaine planétaire de 7 jours avait été popularisée à Rome. La semaine de 7 jours tirait son origine de la création, Genèse 1. Et la connaissance du cycle hebdomadaire correct avait été préservée par les Juifs. Cependant, dans l'ancienne Babylone, chacun des 7 jours de la semaine était associé à l'une des anciennes appellations des 7 planètes. Soleil, Sun, Lune, Moon, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne. C'est très important car cela a servi de base à une proclamation impériale qui a apposé une marque indélébile, issue de l'ancienne adoration du soleil sur le monde proclamé chrétien. L'Encyclopædia Britannica écrit « La première identification de l'observance du dimanche, Sunday en anglais, comme un devoir légal, une obligation imposée par la loi, se situe dans une constitution de Constantin en 321 après Jésus-Christ, décrétant que toutes les cours de justice, les habitants des villes et les ateliers se devaient au repos le dimanche. » Venerabile di Soli, Sunday, 11e édition. En utilisant le terme latin se traduisant par « vénérable jour du soleil », Constantin identifiait le premier jour de la semaine comme un jour dédicacé au soleil. Sun en anglais, anciennement Sol. À travers la proclamation de l'empereur romain, une marque de l'ancienne Babylone et le culte de l'adoration du soleil ont forcément marqué les habitants de l'empire romain. Cette marque, avec les autres symboles associés à l'adoration du soleil, a continué jusqu'à nos jours, en passant par la période médiévale. L'image de la bête. Nous avons vu que la seconde bête mentionnée dans Apocalypse 13 n'est autre que l'église de Rome, tandis que la première bête mentionnée est l'Empire romain. L'église de Rome, la seconde bête, ordonna qu'une image de la première bête, l'Empire romain, prenne forme. Qu'est-ce qu'une image ? C'est une copie, une maquette, une représentation ou une chose homologue. L'image de la bête est donc une chose homologue à l'Empire romain, quelque chose de façonné d'après le royaume ou le gouvernement romain. Remarquez la déclaration limpide de l'historien et politicien britannique James Bryce. Je cite « Le système papal lui-même a été façonné d'après l'ancien empire. A history of the Holy Roman Empire must be deduced for its theory. » Erstein, page 53. Apocalypse 13 montre que la fausse église, la seconde bête, oblige tous les gens à faire preuve de loyauté et à adorer l'image, la structure religieuse organisée d'après l'ancien empire romain. Elle était une cause de mort pour tous ceux qui refusaient de l'adorer. Apocalypse 13, au verset 15. Au cours du Moyen-Âge, l'église n'infligeait pas la punition elle-même. Elle déclarait simplement comme hérétique ceux qui refusaient d'adhérer au système. Ceux qui étaient déclarés anathèmes par l'Église étaient considérés comme des ennemis de l'État. Par conséquent, ils avaient affaire au gouvernement civil. Le premier siècle de l'Empire romain fut autoritaire. Mais la plupart des gens ne réalisent pas que pour beaucoup de fonctions, les élections étaient une pratique acceptée et honorée. Même l'empereur était élu, en apparence par le Sénat, mais en fait, c'était par les gardes prétoriens ou simplement par l'armée. Mais quelques-uns des anciens que l'apôtre Paul admonesta, acte 20 au verset 30, devinrent plus tard des meneurs, en trompant le peuple de Dieu, en suivant l'exemple des municipalités romaines, en tenant des meetings religieux publics où étaient élus les responsables. Notez les déclarations de l'historien Arthur Boak. Ces municipalités étaient constituées d'après le modèle de Rome, quoique certaines appellations comme celles de consul et sénat étaient réservées à la capitale, tous les responsables étaient communément élus. A History of Rome to 565 AD, 1965, page 370. Le docteur Boak continue. Tant que les basses classes de Rome et les municipalités avaient une petite opportunité d'activité politique, elles y trouvaient une compensation dans la vie sociale de leurs corporations et leurs collèges. Ainsi, des collèges professionnels, religieux et funéraires virent le jour. Leur organisation était constituée d'après les municipalités, pages 370 et 371. Concernant le développement de l'Église catholique romaine, le docteur Boak ajoute « Dans leur organisation, ces communautés étaient toutes établies sur le même modèle général, ressemblant à un collégiat religieux romain. » Page 401. Dans les congrégations, un nombre croissant de personnes non converties voulaient aussi prendre la parole. Les enseignants élus étaient ceux qui faisaient plaisir aux gens, en leur enseignant de plus en plus les coutumes païennes de par le monde. Dans sa dernière lettre à Timothée, l'apôtre Paul a directement prophétisé cette tournure des événements. 2 Timothée 4, au verset 3 et 4. L'historien Édouard Gibbon écrivit d'après le résultat des délibérations publiques, on instituait un président du bureau chargé de recueillir les opinions de l'Assemblée, puis de les exécuter. Triumph of Christendom in the Roman Empire, page 44. Gibbon continue à décrire l'époque succédant au règne de l'empereur, Constantin. La chaire épiscopale fut sollicitée, spécialement dans les grandes et opulentes cités de l'Empire, plutôt comme une dignité temporelle que spirituelle. Les opinions intéressées, les passions égoïstes et colériques, les méthodes de perfidie et de dissimulation, la corruption secrète, la violence sanguinaire qui avaient auparavant déshonoré la légalité des élections dans les communautés grecques et romaines influençaient aussi le choix des successeurs des apôtres. Page 336. En prenant pour le modèle les institutions et les pratiques de l'Empire romain, les hommes ont inventé une structure gouvernementale pour l'Église. Les manœuvres politiques commençaient à se substituer à la volonté divine. Les enseignements populaires et tranquillisants se substituèrent aux purs enseignements de Dieu, qui proposent la correction et la réprimande. Le problème avec l'Église de Rome, c'est qu'elle substitua une structure politique humaine à la place du gouvernement divin. Dans le gouvernement divin, les anciens sont désignés d'après leurs fruits par ceux que le Christ a déjà établis comme anciens dans son Église. Tite 1, versets 5 à 9. Le gouvernement de Dieu est basé sur sa loi. Dieu reconnaît les siens selon le fruit qu'ils produisent. Matthieu 7 au verset 15 à 23 et Nombre 17 au verset 7 à 10. L'Église de Rome se développa d'après le modèle et la structure de l'ancien Empire romain. Il était demandé de faire allégeance à la structure en place, même si elle essayait de changer les temps et la loi. Daniel 7 au verset 25. Dans son gouvernement, Dieu juge d'après les résultats produits. Et nous devons nous soumettre aux dirigeants humains aussi longtemps que ceux-ci suivent le Christ. 1 Corinthiens 11 au verset 1. Le nombre de son nom. Qu'en est-il du mystérieux nombre 666? Beaucoup de solutions ingénieuses ont été conçues pour étiqueter ce nombre à divers individus. Mais que veut dire la Bible quand elle nous dit que c'est un nombre d'hommes? Avant que les chiffres arabes fussent acceptés dans le monde occidental au XIIIe siècle, les lettres de l'alphabet correspondaient aussi à des chiffres ou à des nombres. Ainsi, chaque nom avait une valeur numérique. Dans l'alphabet romain, qui nous est le plus familier, les lettres ont une valeur numérique. Dans ce système, I égale 1, V égale 5, V égale 10, et ainsi de suite. La Bible a été écrite en grec et en hébreu, et ces deux langues utilisaient un système similaire. La première solution proposée pour la signification du nombre 666 ou 666 est traditionnellement attribuée à Polycarpe, le disciple de l'apôtre Jean, qui écrivit l'Apocalypse. Cette tradition a été préservée au IIe siècle dans les écrits d'Irénée. Le nombre 666 est contenu dans les lettres grecques de l'Athénos. L égale 30, A égale 1, T égale 300, E égale 5, I égale 10, N égale 50, O égale 70 et S 200. Commentary of the World Bible, Jamieson, Fawcett and Brown. L'éthénos est un terme grec se référant aux Romains. Il est intéressant de constater que l'expression grecque signifiant le royaume latin, H latine Belcelia, a aussi une valeur numérique de 666. Les écrivains grecs appelaient communément l'Empire romain de cette manière. Le livre de l'Apocalypse était originellement écrit en grec. Puis, il fut écrit en grec courant par les églises de l'ancienne Asie mineure. Une autre explication intéressante implique le nom de l'empereur Néron, qui mourut 25 ans avant que l'apôtre Jean eût écrit l'Apocalypse. Bien que Néron fût mort, son royaume était cependant un système romain des temps de la fin. Il était arrivé au pouvoir en promettant des réformes constitutionnelles et un retour à l'âge d'or, d'Auguste. Mais plus son pouvoir grandissait, plus il devenait cruel et despotique. Vivant dans une atmosphère d'intrigue et de conspiration, il abusa de sa puissance. Il fut responsable de la première persécution officielle de l'État romain contre les chrétiens. Pendant son règne, la plupart des apôtres, dont les apôtres Pierre et Paul, furent martyrisés. Son nom en grec s'appelle Néron Caesar, Néron César. Quand la forme grecque de son nom est épelée en caractère hébreu, leurs valeurs numériques additionnées font 666, 666. Le fondateur de la Rome antique était Romulus. Les mots Rome et Romain sont dérivés de son nom. En hébreu, le nom latin Romvles s'écrit Romith. En hébreu, ces lettres additionnées font 666. Resh égale 200, Vau égale 6, Mem égale 40, Yod 10, Yod 10, To 400. Ainsi, à la fois en grec et en hébreu, les deux langues de la Bible, le nombre 666, est appliqué au royaume qui se rapporte de Rome. Les prochaines années verront surgir la septième et dernière résurrection du Saint-Empire romain. Il n'aura pas d'autre signification numérique que le nom, ou peut-être un titre spécial du dirigeant des temps de la fin, de la puissante bête. Néanmoins, il est important de comprendre que le système romain est déjà marqué du nombre 666 ou 666. Ce système et sa survivance finale sont identifiés à la bête. Chapitre 5, le récit de deux cités, celle qui est passée et celle à venir. Le récit de deux cités totalement opposées est l'un des fils conducteurs à travers la Bible. Genèse 10 nous présente Babylone ou Babel, la ville bâtie par Nimrod. Dans Genèse 11, nous trouverons Abraham, un homme né à Ur, en Chaldée, une ville adjacente et faisant partie de l'ancien royaume de Babylone. Genèse 12 nous relate le départ d'Abraham sur l'ordre divin, des environs de Babylone. Dans Genèse 14, Abraham arrive à Jérusalem, anciennement appelée Salem, rencontre Melchisédek, le sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui bénit Abraham et reçoit sa dîme. Dans le dernier livre de la Bible, nous lisons encore le nom de Babylone. Apocalypse 18 parle de Babylone la Grande et de sa destruction totale et définitive. Comme Abraham, Dieu dit à son peuple au temps de la fin, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple !» Apocalypse 18 au verset 4. Apocalypse 21 relate l'arrivée sur la terre de la nouvelle Jérusalem, la ville bâtie par Dieu. Apocalypse 21 au verset 2. Babylone et Jérusalem sont des villes anciennes qui représentent deux systèmes de gouvernement et de modes de vie complètement opposés. L'un est dérivé de Nimrod, le premier tyran d'après le déluge qui s'est rebellé contre Dieu et ses lois. Nimrod a introduit un système de gouvernement humain tyrannique et il cherchait à construire un gouvernement mondial unique, selon les voies du diable. Babylone est une contrefaçon historique de Satan et une alternative au royaume de Dieu. Après l'intervention de Dieu à la tour de Babel, l'importance de Babylone connut des hauts et des bas pendant plusieurs siècles. Finalement, au 7e siècle avant Jésus-Christ, la capitale assyrienne Ninive tomba entre les mains des envahisseurs et une fois encore, Babylone fut prééminente en devenant la principale ville de Mésopotamie. Nebuchadnezzar devint roi de Babylone et donna le départ à une expansion qui permit à Babylone de dominer sur tout le Moyen-Orient. Ses conquêtes incluaient Juda et sa capitale, Jérusalem. Vers l'an 586 avant Jésus-Christ, les envahisseurs babyloniens détruisirent Jérusalem et le temple de Dieu qui s'y trouvait. Près de 20 ans auparavant, un certain nombre de jeunes juifs furent captivés et emmenés à Babylone. Parmi ces juifs se trouvait Daniel. En l'an 539, avant Jésus-Christ, un soir où commençait la fête des trompettes, 66 ans après le commencement du règne de Nebuchadnezzar, Daniel se tenait debout dans la salle de banquet silencieuse et lisait ce que la main avait écrit sur le mur. À l'un des successeurs de Nebuchadnezzar, Belshazzar. Babylone avait été pesée dans la balance, trouvée légère et serait donnée la nuit même à un royaume lui succédant. La cité de Babylone était tombée et quelques siècles plus tard, elle devient un lieu désert et inhabité. Mais le système qui en sortait n'était pas mort. Il continua à travers ses successeurs, comme Daniel l'écrivit plusieurs siècles à l'avance. Genèse 10 au verset 10 explique que le commencement du royaume de Nimrod fut Babel. Dans les années à venir, l'incarnation des temps de la fin de cet ancien royaume est destinée à s'élever une fois encore. L'ancienne cité bâtie par Nimrod a été réduite en cendres et en ruines, mais le système gouvernemental, religieux et économique se poursuit encore. À l'ancienne Babylone succéda la Babylone moderne, appelée par le prophète Ésaïe la fille de Babylone. Ésaïe 47 au verset 1. Comment se présente l'avenir? Nous vivons dans un monde mouvementé. Il y a beaucoup de craintes et d'appréhensions concernant l'avenir. D'un côté, la science et la technologie promettent un monde éblouissant de prospérité. D'un autre côté, le terrorisme ou les guerres nucléaires, bactériologiques et chimiques menacent l'existence même de notre monde. Un grand dirigeant charismatique se lèvera en Europe, répondant à cette crise. Il s'engagera dans une alliance de l'Église et de l'État offrant la paix, la sécurité et la prospérité à un monde désespéré. Usant de duplicité et d'intrigue, il convaincra 10 chefs européens, représentant à la fois les successeurs des temps de la fin, des parties occidentales et orientales de l'Empire romain, à s'unir temporairement et à lui donner leur autorité. Comme nous l'avons vu dans les années 1930, lorsque les gens commençaient à craindre pour leur avenir, ils voulaient ouvrir le marché libre pour assurer la sécurité. Une période de paix et de prospérité croissante s'ensuivit. Un grand marché mondial unifié semblait offrir d'incroyables profits aux cartels internationaux. Ensuite, face aux crises impliquant le Moyen-Orient aux nations anglophones, ce dirigeant agira très vite et avec détermination. Annulant un traité précédemment signé avec l'État juif, ses armées écraseront Jérusalem et la moitié de la ville ira en captivité. Zacharie 14 au verset 2. En même temps, une attaque accablante sera lancée contre l'Amérique, la Grande-Bretagne, le Canada et les anciennes nations du Commonwealth. Pour obtenir plus de détails sur les prophéties relatives à ces événements, demandez-nous notre brochure gratuite intitulée « Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie ». La manifestation de Babylone au temps de la fin promettra ce que Nimrod avait promis aux gens à la tour de Babel. L'unité, la sécurité et la prospérité. Chacun à son tour, c'est ce que Nebuchadnezzar, Cyrus le Grand, Alexandre le Grand et César Auguste avaient aussi promis. Les problèmes, en s'intensifiant dans un monde fracturé, seront contrecarrés par un schéma établi, imposant une unité politique et religieuse à l'échelle mondiale. L'imminente superpuissance européenne pourra compter sur les institutions mondiales existantes, pour les utiliser comme structure politique à sa propre fin. Alors que d'importants développements surviendront dans la sphère politique, c'est dans le domaine de la religion que nous verrons des événements sans précédent dans nos temps modernes. La religion sera considérée comme la solution pour amener les gens à une identité commune requise pour une unité politique. Cette fois, des millions de gens de par le monde seront séduits par une religion frénétique enseignée par un chef charismatique qui fera apparemment de grands signes et des miracles. Plus préoccupés à entendre des choses agréables que les véritables doctrines, les gens diront à cause des fausses promesses de ce dirigeant qu'il les fera entrer dans l'âge d'or. La future superpuissance européenne dirigera un puissant dispositif militaire qui sera envoyé aux quatre coins du monde pour assurer la paix et la sécurité. Les technologies modernes permettront de créer un état policier dont Staline et Hitler ont seulement pu rêver. Les gens seront conduits à accepter des mesures draconiennes pour endiguer la violence terroriste et criminelle. Au début, ce système connaîtra une forte croissance dans le monde économique. Un marché mondial unifié prophétisé dans Ézéchiel 27 et Apocalypse 18 sera plébiscité comme la solution à une prospérité universelle. Ceux qui seront à la barre de ce système se réjouiront pour un court moment de richesses incomparables. Néanmoins, des failles fatales dans ce système, inhérentes dès son commencement, engendreront le temps venu de grandes disparités. Le monde arabe sera irrité par les tentatives en vue de la contraindre à l'unité religieuse avec l'Europe. Un puissant chef, appelé le roi du Sud, dans Daniel 11, se lèvera. il arrivera temporairement à créer l'unité dans la plupart du monde islamique. Défié par ce dirigeant, l'Europe lancera une guerre éclair, qui aura pour effet une occupation européenne de la majeure partie du monde arabe. Daniel 11, au verset 40 à 43. Cette occupation européenne ne fera qu'accroître la suspicion des nations orientales, déjà soupçonneuses envers les dirigeants allemands européens. Finalement, les rumeurs en provenance des capitales orientales provoqueront une attaque des Européens destinée à intimider le monde oriental. Daniel 11, au verset 44. Mais les choses ne se passeront pas comme prévu, et la guerre qui en résultera provoquera finalement la destruction nucléaire de la majeure partie de l'Europe, dont Rome elle-même. Apocalypse 18, au verset 10 et au verset 17 à 18. Par l'alliance des puissances orientales. Apocalypse 9, au verset 13 à 18. Alors que les armées orientales traverseront le fleuve Euphrate pour commencer à envahir le Moyen-Orient contrôlé par les Européens, les événements échapperont à tout contrôle. Les 10 dirigeants européens qui avaient donné leur puissance à ce système se tourneront avec amertume vers l'Église et le système religieux qui les a fait échouer. Apocalypse 17, au verset 16 à 17. De terribles armes de destruction massive, incluant les armes nucléaires comme les armes chimiques et bactériologiques, Apocalypse 9, au verset 5 et 6 et 18, seront utilisées. Juste avant que l'humanité ne s'autodétruise dans la confrontation au Moyen-Orient, le Christ vivant, glorifié, descendra des cieux. Matthieu 24, au verset 22. Dans le contexte de cette époque, la plus atroce, la plus violente et sanguinaire de l'histoire de l'humanité, la véritable solution au problème de l'humanité sera mise en application. Le retour de Jésus-Christ sur cette terre n'est pas une théorie, c'est le seul espoir de l'humanité. Transporté en vision dans l'époque à venir, l'apôtre Jean relate un merveilleux événement qui est tout proche. Elle est tombée Babylone la Grande, Apocalypse 18 au verset 2. Suite à cet événement, Jésus-Christ se posera sur le mont des Oliviers près de Jérusalem avec tous les saints ressuscités. Le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit, Daniel 2 au verset 44. La loi sortira de Jérusalem et toutes les nations se soumettront au gouvernement divin. Ésaïe 2 au verset 2 à 3. La Bible relate l'histoire de deux cités, Babylone et Jérusalem. L'une sera détruite à jamais, l'autre sera recréée en tant que la nouvelle Jérusalem qui descendra des cieux après un règne de 1000 ans du Messie, devenant le lieu de demeure du Père, du Christ et des prémices pour toute l'éternité. Apocalypse 21. Les événements des temps de la fin décrits dans cette brochure sont réels. Ils surviendront pendant la vie de la majeure partie de nos lecteurs. Le Christ offre sa protection à ceux qui marchent humblement et de façon zélée avec lui et qui font son œuvre. Luc 21 au verset 36 et Apocalypse 3 au verset 10. Qu'en est-il de vous? Votre loyauté et votre allégeance, c'est-à-dire votre citoyenneté, est-elle en Babylone, l'abjecte ou en Jérusalem céleste? Votre avenir dépend de la réponse que vous donnerez à cette question. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ésaïe 55 au verset 6. Le Dieu des cieux établira bientôt un royaume durable. Maintenant, il nous offre non seulement sa protection et son aide dans les terribles moments à venir, mais encore la possibilité d'entrer dans son glorieux royaume et de l'hériter pour l'éternité. Comme vous le voyez, le monde autour de vous se disloque de plus en plus. Ne vous découragez pas. Notez comment Jésus-Christ exhorta ses disciples véritables. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Luc 21 au verset 28. En dépit des calamités se profilant à l'horizon, souvenez-vous toujours que les meilleures nouvelles sont encore devant nous. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Hébreux 10 au verset 37. Fin.